Jean-François Seznec, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, par un vote de 7 voix contre 9, la Cour suprême a jugé ce jeudi que qu'un procureur de New York était en mesure de réclamer des documents financiers, notamment de la part de Donald Trump. Qu'est-ce que cette décision signifie?
Mais écoutez, si la décision tient comme vous le dites, c'est très important parce que ça veut dire que l'Attorney General de New York va pouvoir obtenir des documents que personne n'avait pu obtenir auparavant de ses auditeurs. Donc, on aura beaucoup d'informations sur les transactions financières de Donald Trump avant qu'il soit président, bien sûr, mais des transactions très intéressantes, surtout avec la banque Deutsche Bank, et savoir peut-être expliquer pourquoi la banque lui a prêté tant d'argent avec si peu de raisons. D'un autre côté, quand même, il faut faire attention que ce qu'a dit la Cour suprême n'est pas si simple. On n'aura pas forcément ces informations avant les élections. Parce que la Cour suprême donne le droit au président de pouvoir ramener le cas en justice à un niveau plus bas, et ça va prendre encore pas mal de temps.
Alors, sur un autre plan également, cette même Cour suprême n'a pas accédé aux demandes des démocrates qui veulent à tout prix avoir les déclarations de revenus de Donald Trump. Comment analyser cette autre décision?
Écoutez, je crois que la Cour suprême qui a quand même voté à 7 contre 2, donc il y a pas mal de gens plutôt pro-libéraux, si vous voulez, qui n'ont pas voté dans le sens que les démocrates auraient aimé, mais ils ont dû penser simplement que c'était une décision trop politique, vraiment, pour pouvoir donner raison aux démocrates. Et que les démocrates attaquaient le président plutôt pour des causes politiques que pour des causes financières réelles. Je pense que c'est pour ça que la Cour suprême a fait un jugement d'un côté vis-à-vis de l'Attorney General de New York, qui soit un peu différent de celui de ce qu'a demandé les démocrates à Washington. C'était deux cas différents. Et l'un était basé sur le fait que le président n'est pas au-dessus de la loi. Et c'était celui de l'État de New York. Bien sûr. Et ça, la Cour suprême a décidé en grande majorité, 7 à 2 à nouveau, que, oui, comme on disait tout à l'heure, que le président n'est pas au-dessus de la loi, alors que du côté démocrate, c'était vraiment vu par les démocrates à New York, enfin les républicains vis-à-vis des démocrates de Washington, montrant que c'était vraiment une affaire politique.
Alors, mais il y a des traditions aux États-Unis que les présidents doivent mettre à la disposition du public la déclaration d'impôt. Pourquoi Donald Trump est si réticent à cette tradition?
Écoutez, c'est pas vraiment une tradition depuis très longtemps. C'est une tradition que depuis 30 ou 40 ans, pas plus. Hein. C'est pas une obligation du président. Donc, il peut décider de le faire ou pas. Il avait dit qu'il le ferait à un moment, puis il a changé d'avis. J'ai l'impression qu'il ne veut pas donner ses informations financières parce que ce serait assez embarrassant. Il y a certainement des choses dans ses revenus, dans la façon dont il a emprunté de l'argent, la façon dont il a fait des profits qui sont pas forcément, qui feraient pas plaisir vraiment aux électeurs en général, si vous voulez. Et je pense qu'il a peur que l'embarrassement lui coûte son élection, en fait.
À propos d'élections, justement, et si on peut faire un petit tour, ces derniers jours, il y a eu ce livre publié par Mary, l'une des nièces de Donald Trump. Il y a ces informations de la Cour suprême. Est-ce que tout cela aura un impact sur la réélection de Donald Trump en novembre, selon vous? Quand on ajoute à cela aussi la gestion du COVID-19, du coronavirus et l'économie.
Oui, il est certain que tous ces facteurs que vous venez de mentionner vont avoir un impact. Est-ce que ça aura un impact assez important pour que ça change vraiment l'élection? Certainement, mais disons qu'il y a une très bonne chance que ça change l'élection, mais c'est pas sûr du tout parce que il y a encore quand même trois ou quatre plus que ça entre de maintenant à novembre pour voir vraiment si le président ne peut pas rattraper son retard, si vous voulez. Ça le met certainement en retard maintenant, c'est sûr. Si l'élection était demain, ce serait absolument tout cuit, si vous voulez. Mais Donald Trump est connu pour réussir, ressusciter, si vous voulez, à la dernière minute, et il a quand même cette capacité de retrouver ses électeurs à la dernière minute. Alors, est-ce que quelque chose va se passer? On ne sait pas vraiment, mais enfin, disons que ça lui rend la vie beaucoup plus difficile, mais que c'est pas encore tout fait, quoi.
Un petit mot sur Joe Biden. Est-ce que les démocrates peuvent tomber à nouveau dans le piège d'Hillary Clinton en 2016? Qui était presque sûr de gagner. Les sondages donnent en ce moment Joe Biden favori.
Oui. Ben écoutez, ça peut toujours arriver. Hein. Et puis Biden, c'était quand même un homme d'un certain âge. Il est encore plus vieux que Trump, il n'est pas tout jeune. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer, bien sûr. Je pense que c'est très important de savoir qui le président, enfin qui Biden, comme candidat à la présidence, va choisir pour la vice-présidente. Et ce sera, on pense que ce sera une vice-présidente. et suivant qui il choisit, ça va vraiment jouer énormément là-dessus.
Jean-François Seznec, as always, merci beaucoup pour votre disponibilité.
Ben, c'est moi qui vous remercie et bonne chance. Au revoir.
Merci. Au revoir. Good.